Ah, l'élégance du gangster, c'est peut-être ce qu'il y a de plus troublant dans la vie comme au cinéma, et ce depuis très longtemps. Je me suis fait la remarque assez récemment à l'occasion d'un scandale de costumes donnés ou vendus impliquant je ne sais quel homme politique et je ne sais quel homme d'affaires, on sait plus. Mais l'amateur de pellicule se souvient très bien, quant à lui, que l'un des points obligés des premiers films de gangster, c'était la scène du tailleur, justement, du costume parfaitement coupé dans les tissus les plus éclatants qui marquaient l'ascension du caïd autant que sa vanité et sa chute à venir. On la trouve par exemple, cette scène, dans Little Caesar ou dans The Public Enemy, deux films qui, avec Scarface, marquent l'aube et la gloire du film de gangster au début des années 30. Et il faut les voir, les acteurs Edward Robinson et James Cagney, se faire coiffer, se faire pomponner, tirer à quatre épingles, monstrueuses incarnations d'un rêve américain qui se réaliserait soudain dans le crime et dans le sang. Leur coquetterie les rend tout à la fois irrésistibles et très inquiétants. D'ailleurs, le succès de ces films a tellement inquiété l'Amérique d'alors que la censure s'en est chargée, au point de forcer les producteurs à mettre en avant non plus le malfrat au cinéma, mais le policier. Sans doute une histoire de morale ou de costume, disons, d'élégance et d'ambiguïté.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a peut-être l'élégance d'un gangster, mais rassurez-vous, il n'est qu'un cinéaste. Après Mean Streets, Les Affranchis, Casino ou encore Les Infiltrés, il poursuit son exploration d'un genre né dans les années 30 qu'il n'a cessé de renouveler. The Irishman, c'est le nom de son nouveau film, en ligne sur Netflix aujourd'hui même, une fresque à la fois grandiose et intime, avec Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci, crépuscule de légende. Bonjour Martin Scorsese.
Ah, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, quel genre de gangster êtes-vous?
I'm filmmaker.
Moi, je suis cinéaste.
Et quel gangster, justement, de pellicule ont nourri le spectateur que vous étiez, le cinéaste que vous êtes devenu?
Well, there were very few.
En fait, il y en a très peu qui soient reliés directement au monde dans lequel j'ai grandi. J'ai pris conscience du milieu qui m'entourait dans le centre-ville de New York, dans le vieux quartier italien, sicilien en fait. J'en ai pris conscience à l'âge de 8 ans. Et c'était le monde. C'était pas quelque chose qui m'était étranger. Ces gens, ils étaient mêlés à ma famille, des gens qui travaillaient dur, des ouvriers, la famille. Il y avait l'église catholique au coin de la rue, c'était la première cathédrale catholique à New York, Saint-Patrick, l'ancienne Saint-Patrick. Il y avait un ou deux prêtres, l'un d'entre eux en particulier qui est devenu notre guide. Il nous a donné une vision différente de la vie. Il y avait quelques bonnes sœurs qui nous enseignaient, qui étaient gentilles, certaines étaient plutôt sévères, mais bon, j'en suis devenu conscient en grandissant. À 12, 13 ou 14 ans. Et les films que j'ai pu voir, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, à l'époque, la plupart des films tournés dans les années 30, et principalement les vieux films muets, se tournaient jusqu'en 36, 37, étaient quasiment impossibles à voir. Donc, on n'a jamais vu Scarface, celui de Warthogs, avant les années 70. Ceux que l'on a vus, en fait, il y en a deux, qui sont ressortis dans les années 50. C'est Little Caesar et L'ennemi public avec James Cagney. L'ennemi public réalisé par William Wellman m'a profondément impressionné.
Et quelles images vous viennent immédiatement à l'esprit? Quelles scènes? Quels plans?
Mais ce qui est intéressant, c'est que L'ennemi public sonnait vrai. C'était pas du tout sentimental. Et ce qui était très intéressant pour moi, parce que je l'ai vu à l'âge de 10 ans, je crois, c'est le pouvoir qu'il avait accumulé et comment il l'a dilapidé. Il l'a perdu. Et au bout, la sauvagerie et la dureté de la fin du film. C'est un film fascinant parce que on ne voit jamais la violence à l'écran. C'est toujours hors cadre. Et c'est un film extrêmement violent à cause de Cagney et à cause de la réalisation de Wellman. C'est ce qu'il y avait de plus proche de ce que l'on pouvait ressentir. Je ne l'ai pas vu dans mon enfance, mais c'était autour de moi. Et finalement, les vrais personnages que j'ai vus à l'écran, et c'est ce qui a tout changé, ce qui a fait que c'était ça, c'était dans Sur les quais.
Pourquoi est-ce que la figure du gangster fascine-t-elle autant, Martin Scorsese?
Je crois que Robert Warshaw a écrit un livre, The Immediate Experience, et un excellent essai sur les films de gangsters. En fait, ce sont les personnes qui vivent par procuration l'ascension du gangster, pouvoir faire tout ce que l'on veut avec Très peu de conflits, pour ainsi dire. Dans Goodfellas, les affranchis, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de faire la queue pour acheter du pain, ils vont directement au comptoir. L'important était, pour le genre américain, c'était la chute du gangster. C'était ça l'important. Il fallait voir la chute. C'était par procuration une représentation morale.
C'est intéressant parce que ça fait du gangster aussi une sorte de face sombre du rêve américain. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'ailleurs, le mal ?
Eh bien, ça signifie pour moi ce qu'est notre véritable nature en tant qu'être humain. Et si c'est plus le mal que le bien, alors qu'est-ce qui nous amène à chérir, à nourrir encore plus ce mal ? Souvent, c'est la cupidité.
Vous êtes du côté du bien, vous, Martin Scorsese ? Vous avez toujours été du côté du bien ?
J'essaye. Je ne sais pas si j'ai réussi.
En tout cas, le film de gangster est devenu un genre essentiellement américain. C'est même constitutif de la culture états-unienne. Qu'est-ce que ce genre nous dit de l'Amérique ?
L'Amérique a créé son indépendance. Elle s'est battue pour cela sur la base d'idéaux extraordinaires, sur le préambule de la Constitution. Sur le Bill of Rights, la Déclaration des droits. C'est une lutte. C'est ce qu'a dit Benjamin Franklin lorsqu'ils ont terminé l'élaboration de la Constitution. Ils lui ont demandé, « Monsieur Franklin, avons-nous une république ou bien une monarchie ?» Il a répondu, « C'est une république si vous réussissez à la préserver. » Et c'est toujours le cas. Mais ce qui est le plus important, c'est cet élément. Ce n'était pas les 13 colonies, c'était le reste du pays, la terre, l'opportunité. En partant d'ici, l'Europe, une terre bimillénaire de diverses cultures, de batailles religieuses, catholiques, protestants, cathares, amigeois, les huguenots, et d'aller en Amérique, et d'avoir ce sentiment de liberté, et aussi cette folle opportunité. Et il n'y avait pas de loi. Et ça s'est répandu vers l'Ouest. Et avec de telles opportunités et de telles richesses à déterrer, pour ainsi dire, les forces du mal prennent l'avantage, aucun doute là-dessus. Et ça reste dans le tissu même du pays, dans la nature du pays.
Et jusqu'à aujourd'hui, alors je m'amuse, mais effectivement, j'ai entendu il y a peu de temps Robert De Niro traiter Donald Trump de gangster. Dans quelle mesure l'actuel président des États-Unis est-il un bon gangster ou même un bon personnage de film ?
C'est facile à dire. On peut dire de tous les gouvernements qu'ils sont comme des mafias, on peut dire ça aussi des églises. Oui. Mais c'est du cynisme. Moi, je ne dis pas que Robert De Niro est cynique, mais il faut comprendre que ce sont ces forces sombres qui sont en jeu dans la nature humaine. Et à moins d'avoir été touché par les lumières et avoir été transcendé en tant qu'être humain à un autre niveau, ce sont des problèmes très concrets et permanents des gouvernements. Comment gouverner un individu ? Faut-il revenir à l'ancien régime où l'on croyait en un roi philosophe ? Ça n'a pas marché. Ça n'a tout simplement pas marché. Il faut donc prendre en compte les défauts de l'être humain.
Dans The Irishman, vous racontez l'histoire d'un homme, ancien tueur à gages, soupçonné d'avoir liquidé un homme politique. Cet homme, joué par Robert De Niro, justement, il s'appelle Frank Sheeran. Il a vraiment existé et il revient dans votre film sur sa vie, sous la forme d'une longue confession qui nous transporte, notamment dans l'Amérique des années 70. Dans quelle mesure, Martin Scorsese, votre film est-il un hommage au cinéma et à l'esthétique de ces années-là ?
Je ne sais pas si ça l'est. Nous n'y avons pas du tout pensé. J'ai simplement essayé de trouver une façon de raconter l'histoire de ce personnage, Frank Sheeran, qui nous permettrait à De Niro et moi de nous retrouver pour un film dans le même milieu que Goodfellas, Les Affranchis. Et la seule façon de le faire, c'était pour moi de trouver une nouvelle approche. Et ça signifiait de trouver ce que je pouvais apprendre de nouveau de Bob, Robert De Niro, et de ce qu'il pouvait peut-être apprendre de moi, comment nous pourrions enrichir nos propres vies à travers notre propre travail, s'enrichir l'un l'autre. Et automatiquement, ça a donné le ton pour la façon de faire le film. Et je me souviens, une fois le scénario finalisé avec Steve Zalian, je l'ai lu et j'ai dit, je sais comment faire ça. Mais c'est pas de l'arrogance. Je n'avais tout simplement pas le choix. Je savais quoi faire. Je l'ai dit à De Niro. Il m'a cru. Je lui ai pas dit ce que c'était. Je pouvais pas lui dire ce que c'était. Et donc on s'est senti libre. Et en traitant du même milieu, nous devions l'utiliser comme une base de départ. Et ensuite nous envoler vers faire nos propres vies.
Celle qui ne sait rien faire dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Martine, c'est la culture et son actualité d'argent qui est terne et son panache. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 27 novembre?
J'adore lire, je lis beaucoup.
Alors la première page, c'était les animaux qui sont bizarres. Moi, j'aime bien.
Ralentir, enfin, c'est aujourd'hui que débute le 35e salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil sur le thème Éloge de la lenteur. En tout 250 auteurs, 3000 dédicaces et l'île de la Réunion en invité d'honneur. On pourra notamment y écouter une lecture musicale du feuilleton d'Artémis de Muriel Sack avec la harpiste Élisée Viella, assistée à l'avant-première de Jean-Michel Le Caribou, adapté du livre de Magali Lehuche, et même participer à un atelier radio Go 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 Le Mino. Highway to Hell Fest, grand messe mondiale du métal, le Hellfest Festival qui réunit près de 200 000 personnes chaque année à Clisson en Loire-Atlantique a dévoilé hier soir la programmation de luxe de son édition 2020. Entre le 19 et le 21 juin, la manifestation accueillera plus d'une centaine de formations dont les stars Deep Purple, Korn, System of Down, Faith No More ou The Offspring, Rock On. Des animaux et des prix. Le prix 30 millions d'amis, considéré comme le Goncourt des animaux, a été attribué hier à Alexandre Simiakov pour son roman Détachez-les et amenez-les-moi, paru chez Fayard. Tandis que dans la catégorie essais, c'est Caroline Audibert qui a été récompensée pour Des loups et des hommes, publié chez Stock. Attribué par un jury chic et choc avec Michel Houellebecq notamment, le très sérieux prix littéraire célèbre chaque année des ouvrages où l'animal est à l'honneur. Miaou. Et mercredi de gangster cinéma stellaire, car aujourd'hui dans les salons se pâment. Devant Gloria Mundi, la nouvelle fresque sociale lumineuse révoltée de Robert Guédiguian, portée entre autres par Ariane Ascaride, récompensée au Festival de Venise. On a la tête dans les étoiles avec Proxima d'Alice Vinocourt qui réinvente le film d'astronaute. Et on part sur le front avec Sympathie pour le diable sur les traces d'un reporter de guerre en Yougoslavie, signé Guillaume de Fontenay. Oh yeah. Martin Scorsese, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour la sortie aujourd'hui sur Netflix de The Irishman. On parlait tout à l'heure des années 70, une décennie que vous avez marquée avec des films qui sont devenus cultes. Je pense évidemment à un film comme Taxi Driver. Que vous pensez à ce film qui vous a quand même valu une Palme d'Or en 1976 et un Oscar du meilleur film? Vous pensez à quoi?
Ce qui revient à l'esprit, ce sont les rues de nuit, la vapeur qui s'en échappe et ce taxi jaune qui traverse les nuages de vapeur. J'ai grandi avec ça, c'est tout. Comme vous savez, c'est écrit par Paul Schrader. Et nous étions tous merveilleusement reliés, moi, De Niro, Schrader, avec ce contenu. Et nous avons donc fait le meilleur film que j'ai pu dans ces circonstances.
Et quel film, Martin Scorsese, quand vous voyez, par exemple, que le film Joker de Todd Phillips se présente comme une réécriture de Taxi Driver, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui?
Je ne sais pas. Je n'ai pas vu le film. Et s'il le cite, je pense qu'il y a de nombreux films qui citent la nature de ce film. Et ça vient du scénario de Schrader. C'est lui qui a créé ce personnage. J'espérais que, finalement, il y aurait une sorte d'évolution où Travis Bickle ne serait plus obligatoirement cette personne qui doit avoir cette relation au monde. Mais au contraire, ça s'est encore renforcé. Et je crois qu'un film comme le Joker, je ne l'ai pas vu, mais semble désormais naturel.
Vous ne mâchez jamais vos mots sur le sujet du cinéma américain. Quel regard est-ce que vous portez sur ce cinéma aujourd'hui?
Bien sûr, à mon âge, étant donné les exigences de mon propre travail, la restauration, la préservation de films, les problèmes familiaux, il m'est très difficile de me tenir au courant de toute l'actualité du cinéma américain. Il y a d'excellents cinéastes, Richard Linklater, James Gray, il y a tellement de talents dans le monde. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous avons été marginalisés. Ce genre de talent est marginalisé par le produit cinéma, pas le film commercial. Le film commercial, vous savez, Jules et Jim, c'est un film commercial.
C'est vrai.
Okay, but it's art.
Oui, mais c'est de l'art. Sunset Boulevard de Billy Wilder, c'est un film commercial, mais c'est de l'art. Ici, quand on parle de produit, le produit s'est fait pour être consommé puis jeté. Et ce qui se passe, c'est que un public est en train d'être créé qui ne connaît que ce type de cinéma. Et c'est contre cela qu'il faut lutter, le contrer et dire non. Ça existe, nous savons que ça existe, mais ça ne devrait pas prévaloir et être exhibé à travers le monde. Ça ne devrait pas submerger le cinéma qui traite des êtres humains.
Alors c'est ça, qu'est-ce qui fait pour vous un film de cinéma? Qu'est-ce qui fait l'art du cinéma?
Vaste question. Ça tient à l'expression, à la forme. Les aspects de la condition humaine. Et donc même si ce film est vu 10 ou 20 ans plus tard, il a encore une résonance pour nous en tant qu'êtres humains, grâce à la forme, c'est-à-dire à travers les images, le son ou l'absence de son, les longueurs ou l'absence de longueur. Raconter une histoire, et cette histoire, ça peut être un plan séquence, vous savez, de toute cette pièce pendant 1h45. C'est une façon de raconter une histoire. Ça signifie quelque chose. Ça aide, sinon, à changer notre vie, du moins apporter témoignage de notre vie, de dire oui, ça, je le comprends. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Non. Mais au moins, je le comprends.
Ça veut dire, si je vous comprends bien, que le cinéma a le pouvoir, Martin Scorsese, de nous rendre plus humains.
Oui. Mais c'est ça que fait l'art.
Et ce pouvoir du cinéma, à quel moment de votre vie est-ce que vous en avez pris conscience?
Très tôt. Du fait que je suis asthmatique, on ne m'emmenait qu'au cinéma. Et les films que j'ai vus, c'est des films américains, merveilleux. Duel au soleil, La rivière rouge, Les ensorcelés, Sunset Boulevard. J'ai tout vu. Mais la vraie connexion, c'est quand j'avais 5 ou 6 ans. Les films du cinéma néo-réaliste italien qui sont passés à la télévision à New York. À l'époque, il n'y avait que 2 chaînes de télé. Et c'est une chaîne locale qui a diffusé Rome, ville ouverte. Paisa, Le voleur de bicyclette, et Shusha. Et ma famille se réunissait. Mes grands-parents d'origine sicilienne étaient là, autour de ce nouveau miracle, la télévision, et se voyaient eux-mêmes à l'écran. Et je me rendais compte que c'était eux, que c'était nous, et nous étions nous dans cet autre pays. Et il y avait quelque chose au sujet de l'art de ces films néo-réalistes qui, d'une certaine façon, était choquant. Sa relation à la vie, au fait d'être un être humain. Ça m'a pris du temps pour comprendre que le film commercial avait sa propre grille artistique pour la plupart des cas. Pas tous, mais pour la plupart. Et donc, c'était une façon différente d'approcher l'art. Et cette impression qui m'a été faite par les films italiens ne m'a jamais quitté. Et puis, j'ai vu les films français à la télé. C'était Les Enfants du Paradis. J'avais 8 ou 9 ans, et La Belle et la Bête, et ça a continué comme ça, oui.
Mais c'est intéressant de vous parler de ces expériences de cinéma qui ont eu lieu à la télévision, à vous entendre. Votre film, The Irishman, il ne sera pas visible au cinéma, puisqu'il sort sur Netflix dans tous les pays. Ça pose un problème, ça.
Stupide petit écran, c'est horrible. C'est fou. C'est comme regarder, je sais pas moi. Écoutez, le problème, c'est que j'ai vu Citizen Kane à la télé.
Mais alors maintenant sur Netflix, il faut avoir une grande télévision, c'est ça que vous nous dites?
Oui, bien sûr, moi j'ai un grand écran. En fait, j'ai une salle de projection. Citizen Kane à la télé, il y avait de la pub, des trucs comme ça. Et puis je suis allé au cinéma pour le voir. Ah, ça a été une révélation, un choc de le voir. Même à la télé. Et vous posez la question de Netflix. Il y a une réalité, et au cours des 8-9 dernières années, on a tenté de faire ce film. Personne n'y était intéressé à Hollywood.
Ça paraît fou.
Mais oui, c'est la fin. C'est comme ça. De Niro?
Non.
Al Pacino? Non, non. Moi? Pour ce type de film?
Non.
J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Leonardo DiCaprio sur 2 autres films. Et il y a eu beaucoup de soutien. Mais même certains de ces films-là, c'était un financement indépendant, pas par les studios. Et nous, on n'avait rien. Et finalement, principalement avec la décision de faire ce travail numérique, il n'y avait pas de choix.
Qui correspond au rajeunissement des personnages dans votre film.
Oui. Mais aussi, c'est qu'on n'a pas 50-60 ans, on a 75 ans. Et il a fallu travailler ensemble, et nous savions qu'il était grand temps. Et les seules personnes qui sont venues nous dire « on va vous soutenir financièrement, tout, on vous laissera la main libre sur la création », c'était Netflix. L'échange, c'était en streaming. Bon, ça sera au cinéma pendant un petit moment. Et c'était comme ça que ça a dû être fait.
Pas en France, hélas. On va reparler de cinéma, de résistance de vie, même de Robert De Niro, Martin Scorsese, juste après un titre qui ouvre votre film, un titre extraordinaire qui était déjà dans Dirty Dancing, un titre des Five Satins qui s'appelle « In the Still of the Night ». En 1956, vous êtes sur France Inter avec Marty. Vous écoutez Boomerang. On est quelque part entre une version parrain de Super Mario et de Nana Mouskouri, c'est frappant. La lunette chic, iconique, magique, comme deux petits écrans de verre devant son regard inquisiteur, farceur, un peu séducteur, le cheveu peigné, grand seigneur, l'ongle brossé, poli, coupé court. On parle jamais des ongles, alors qu'ils disent tellement. Les ongles avec sa chemise violette et son petit col remonté. Ce matin, Martin Scorsese, invité de Boomerang pour The Irishman sur Netflix aujourd'hui. Variation sur la vie d'un célèbre tueur à gages incarné par Robert De Niro. Et ce qui frappe, c'est évidemment le corps et le visage de cet acteur, on en parlait, que vous avez tant filmé. Lorsque vous regardez le visage de Robert De Niro dans votre film, son visage vieilli, ridé, fatigué, qu'est-ce que vous ressentez?
Je crois que la chance extraordinaire d'avoir une collaboration, une relation avec quelqu'un qui, pendant la grande majorité du temps, on n'a rien à dire de ce qu'il devait être, comment il doit bouger. Oui, on en parle lors du scénario, on essaie de changer un petit peu les dialogues, des choses comme ça, le personnage, on parle des costumes. Mais une fois qu'on commence à tourner, c'est du non-dit, il y a très peu de choses à dire. Il y a très peu de choses, je ne vais pas lui dire, bouge ton bras droit comme ça. Non, je ne le fais pas. Mais avec d'autres personnes, oui. Mais la nature de son travail, eh bien, c'est son propre processus, comme on dit. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que on a cette relation sans mots.
Justement, son visage, Martin Scorsese, le visage de Robert De Niro, quelle histoire est-ce qu'il nous raconte? Ce visage que vous vous piquez de rajeunir dans le film pour les scènes de flashback.
Il y a beaucoup de sensibilité. Il y a une profondeur là. Je pense que je l'ai découvert en filmant Taxi Driver. Mean Streets aussi. Dans Mean Streets, il connaissait beaucoup de ceux que le film décrivait. Il les connaissait vraiment parce qu'on a grandi dans les mêmes quartiers.
Ce qui paraît fou aussi.
Dans Taxi Driver, il joue le rôle de quelqu'un. C'est très difficile, Travis Bickle. Et pourtant, il y a une sorte de sensibilité qui traverse l'écran. Ça vient de lui.
De Niro, brilliant new talent. Under Mean Streets, they said he was a genius.
I'm standing here. You make the move. You make the move. It's your move. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
I'm the best. I can take him more than anybody. There's no one else around who wants to fight me. They're all afraid.
Come on, we have fights all the time. When you're worried now, you're going to hit me in the face. Hit me in the face.
Gad.
No.
Are you afraid?
Did I not tell you just to do it? Now I'm telling you, Gad, do it.
You fucked my wife.
What?
You fucked my wife.
Yeah, you insulted him a little bit. You got a little out of order yourself.
No, I didn't insult him. I didn't insult
insulted him.
Insulted
him a little bit.
No, I didn't insult nobody. Give us a drink. Give us a drink.
I had one of the biggest casinos in Las Vegas to run. For Tangiers.
I'll never do that again. You do not kick off the band. I kick off the band. You understand?
Don't treat me like that.
Don't ever do it again.
Robert De Niro in Martin Scorsese's brilliant feature film.
Qu'est-ce que c'est un acteur pour vous, Martin Scorsese?
Ah, I like to think of actors.
J'aime penser aux acteurs. Parce que, bon, je viens de l'école des Elia Kazan, des Cassavetes. J'aime à penser à eux, comment dire, ils sont entiers. Ils ne jouent pas devant la caméra, sur scène. Ils sont acteurs, derrière la caméra, devant la caméra. Ils sont acteurs, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'artifice. Et j'aime bien voir cette chose extraordinaire. J'aime voir les acteurs s'entraîner à ressentir ces émotions, la frustration, la colère, et regarder ce processus sous mes yeux. Et je les vois atteindre un stade de complétude que j'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je ne passe pas à travers cet exercice physique accompli par les acteurs.
Vous voulez dire qu'en aucun cas, le metteur en scène fait l'acteur ?
Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de réalisateurs qui... Enfin, il y a tellement de façons de réaliser, vous savez. On peut faire l'acteur, oui. Ce qui se passe, c'est que j'ai pu mettre en scène des gens et leur donner un format ou un personnage, un monde, pour qu'ils puissent être le meilleur d'eux-mêmes. Ça, c'est agréable.
Et ce qui est certain, c'est que The Irishman, c'est un film qui repose sur des performances d'acteurs, et pas n'importe lesquelles, celles d'hommes qui ont traversé votre cinéma. Je pense à De Niro, mais aussi à Joe Pesci, qu'on a vu dans Raging Bull, dans Goodfellas, dans Casino, à Harvey Keitel, dans Mean Streets, Alice Doesn't Live Here Anymore, Alice n'est plus ici, Taxi Driver, La Dernière Tentation du Christ. Dans quelle mesure est-ce que votre film et votre filmographie peuvent être aussi compris comme une documentation de l'acteur ?
Ça pourrait l'être, mais il faut se souvenir que le fait d'être acteur, c'est le fait d'être accepté à un certain moment de l'époque. Imaginez qu'on revienne et qu'on voit Louis Jouvet au théâtre, ou on remonte le temps et on voit Edmund Booth aux États-Unis, ou Burbage, qui était le grand acteur shakespearien. Il représentait un certain temps, un certain lieu, une façon d'être sur scène, face à la caméra. Moi, je viens d'une époque où tout ça était en train de changer. C'était du cinéma de rue quasiment, naturaliste. J'aime pas utiliser ce mot, mais bon, c'est venu par Kazan au cinéma, certainement sur scène. J'ai pas vu la représentation sur scène, j'étais trop jeune, mais au cinéma, sur les quais et Rivière Sauvage. Le style de jeu a changé. Et c'est de là que nous venons. Je ne sais pas ce que serait la façon de jouer aujourd'hui, parce que les valeurs ont changé. Un film qui doit être vu sur la télé, c'est différent. Un vrai film de télé, donc comme une mini-série. Jouer, il y a une façon de jouer pour cela. Pour être vu sur un iPad ou sur un téléphone, le jeu est devenu différent. Je ne sais pas exactement ce que c'est aujourd'hui. Et puis il y a aussi les choses traditionnelles, ces techniques de jeu que l'on peut trouver dans beaucoup d'écoles d'acteurs aux États-Unis, que moi j'ai jamais suivi. Il y a l'Actor Studio, il y a l'école de Stella Adler, et puis cet art qui vient de l'Angleterre, et cette tradition du théâtre britannique. Mais c'est totalement différent. Mais pour moi, je crois que mon association avec les acteurs me fait sentir que je pourrais jouer avec eux dans le film.
Et en tout cas, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit à quel point vous les aimez, Martin Scorsese, ces acteurs. Dans quelle mesure faut-il aimer les hommes et les femmes pour faire du cinéma ?
C'est la clé de la réussite. Je les aime, ces hommes et ces femmes avec qui je travaille. Vraiment, même s'il y a des désaccords, il y a quelque chose en eux qui est miraculeux. Il y a des gens qui font des films et qui n'ont pas besoin d'aimer les acteurs. Je me souviens Michael Powell qui regardait un film, Broken Blossoms, Le Lys Brisé de Griffith. Il a regardé le film, je lui ai montré ce film en 16 mm, après il a dit « Ah, c'est tellement merveilleux de voir un film où le réalisateur aime les acteurs ».
Merci infiniment, Martin Scorsese, d'être venu dans Boomerang. Merci à votre interprète ce matin, le gangster de la trad, Michel Zlotowski. Je rappelle que The Irishman, avec Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel ou encore Anna Paquin, sort aujourd'hui sur Netflix et que c'est un grand film de cinéma. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, l'Instant M, juste après ça.
Merci.
Ouais. C'est quoi ce grand sourire sur ton visage?
Je me disais que les gens ils savent pas à quel point on a réussi notre life.
My life.
On a réussi notre life.
Ah ouais. Ha, j'ai réussi ma life. Demain je sais pas, mais aujourd'hui j'ai réussi ma life. Qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais pris ma place? Je suis même pas sûr que t'aurais réussi ma life. Sneakers classés, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. J'ai plus rien à prouver, j'ai réussi ma life. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qu'il vaut mieux remettre au lendemain comme le suicide. Oui, oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yonkli, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être, mes ex me regrettent. J'ai réussi ma life, j'ai plus genre de truc où tu te sens sale comme après degré. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. Je rentre en boîte en Quechua, je suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? Je voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ha ha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life.
Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis. Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, car ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. Pas, tu tombes dans les premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. Ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. Ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. réussi ma life.
Oxmo et Orelsan sur France Inter. Ma life, tout de suite, c'est l'heure des médias.
Et toi,
avec
t'as
Sonia.
Réussi ta life?
Ma life. Je sais pas, moi je dis juste ma life. Ma life, Sonia.
Okay. Allez, à demain.
À demain.